Intersigne. Une émission de Habib Salha.
Le présent est-il encore assimilable? Est-il encore accessible? Est-il encore possible? Le droit à l'information est un droit de l'homme. Ce droit implique un état d'esprit, un changement de paradigme dans un monde qui mue. Pour développer toutes ces questions, nous avons invité Abdelkrim Hizaoui, qui est professeur émérite et qui va baliser des chemins, qui va montrer que le plus important, c'est de cheminer vers l'essentiel maintenant. Nous sommes en 2025. C'est une nouvelle année. Alors, nous allons suivre notre professeur émérite qui mérite quand même cet adjectif. Flaubert n'aime pas les adjectifs, mais pour les professeurs émérites en Tunisie, je vous assure qu'ils méritent leurs adjectifs. Alors, un livre qui valorise, met en avant ce droit, le droit du citoyen à l'information. Le droit à l'information n'est pas le droit de l'information. Alors, on commence par le commencement. Ce monde qui mue à sa manière, a multiplié les écrans, a varié à sa manière les données, mais à quel prix?
D'abord, merci de votre invitation, c'est Lahbib. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour cet échange dans cette émission culte qui est Intersigne et qui est probablement l'une des plus anciennes de notre chaîne internationale. Et je vous en félicite et j'espère que ça va continuer parce que les auditeurs, d'une façon générale, ils aiment bien être fidélisés par des repères, par des émissions cultes comme celles que vous animez depuis... Je vais pas rappeler...
La musique d'Anour Brahm et la voix de Habib El Eid.
Tout à fait.
Et la confiance de RTCI.
Voilà. Donc, une fois ceci dit, donc comme vous l'avez précisé, nous avons publié, je dis nous parce que c'est une association qui s'appelle le Centre de développement des médias, que j'ai l'honneur et le plaisir de présider depuis 2014, qui a procédé donc à la publication d'un ouvrage collectif en arabe. J'espère qu'il sera traduit, au moins en français, parce que la matière le mérite, qui concerne donc le droit à l'information, le droit du citoyen à l'information, fondement des droits et libertés de l'information.
Abdelkrim Hizaoui, le droit du citoyen tunisien aux langues. Nous sommes en 2025, et c'est quand même le moment d'arrêter d'opposer les langues. Un jeune maintenant, en naviguant, utilise toutes les langues du monde, tous les outils du monde, toutes les images du monde. Et en Tunisie, comme s'il y avait une fixation, comme si la langue arabe était contre la langue française, et comme si la langue anglaise était là pour sauver les deux langues. Alors que non, nous avons besoin de chinois, nous avons besoin de russe, nous avons besoin de toutes les langues pour être de ce monde.
Oui, je pense que dans nos pratiques médiatiques, dans la pratique médiatique de nos jeunes surtout, ils naviguent entre plusieurs langues. Ils ont des applications très faciles à installer pour toutes sortes de traductions. Et donc, c'est vrai que maintenant, il faut arrêter de se braquer sur ces questions de arabophone, francophone, anglophone.
Et alors, ouais. Mais pourquoi notre télévision utilise-t-elle une seule langue et l'image de la Tunisie? Là, j'anticipe un peu l'image de la Tunisie. Oui. C'est-à-dire que si demain j'avais, moi, des invités pour développer une idée, montrer que nous ne sommes pas sauvages, qu'un arabe n'est pas raciste, qu'un juif démocrate nous augmente, nous discutons avec lui. Le dire à qui? Le dire au monde, dans les langues du monde. Donc la langue française n'appartient pas à la France. Moi, je creuse, je trouve une mosaïque, je ne vais pas appeler Rome. Je creuse encore, je trouve la langue française, je ne vais pas appeler Paris.
Oui, bon, là, vous nous emmenez sur...
C'est dit dans votre livre. Il y a tout un chapitre consacré à la télévision nationale.
Oui, bon, c'est l'un des chapitres, mais permettez-moi rapidement de dire de quoi il s'agit. En plus, après cela, je veux bien répondre à toutes vos questions ou continuer cet échange sur ces questions que vous avez abordées. Cet ouvrage comprend 16 contributions. Les contributeurs sont universitaires, 6 universitaires de l'IPSI, 6 professionnels, journalistes professionnels, un magistrat et 2 doctorants de l'IPSI, répartis à peu près à égalité entre hommes et femmes. Et les axes de cet ouvrage sont constitués d'abord par le concept de droit à l'information, d'ordre du citoyen à l'information, qui est assez souvent confondu avec le droit d'accès à l'information, qui n'est que l'une de ses composantes. Ensuite, nous avons le docteur Ayman Zardoudi qui a présenté un exposé juridique de l'état du droit à l'information en 2023, sa protection, les atteintes relevées par les rapports internationaux. Ensuite, nous avons un magistrat, le juge Omar Lousleti, ancien vice-président de la AICA, qui va éclairer un petit peu, à partir de son expérience à la AICA justement, la question de l'accès à l'information audiovisuelle et les exemples pratiques de protection de l'auditeur et du téléspectateur, notamment par le décret-loi 116 et par les cahiers des charges qui ont été établis pour les différentes chaînes de radio et de télévision. Ensuite, on a une contribution du docteur Taïb Youssefi, journaliste ex-PDG de la TAP et ex-chef de cabinet du chef du gouvernement, qui va nous exposer un petit peu le rôle de l'État dans la gouvernance de l'information avant 2011 et après. Ensuite, on a 2 présentations du docteur Mounem Tiba sur le droit d'accès à l'information entre le texte et la réalité et une autre contribution concernant la réalité de l'aide de l'État à la presse. Est-ce que l'État réellement est en train de continuer à aider le secteur de l'information? Ensuite, on a aussi une contribution intéressante du docteur Emel Driss sur la communication gouvernementale. Quelles sont les avancées, les déficits de cette communication qui est essentielle pour connaître l'activité des départements ministériels et des services publics. Et 2 collègues de la télévision qui sont Fatin Hafsi et Iheb Chewch jettent la lumière sur la gouvernance de la télévision publique, son offre de programme et est-ce que cette offre de programme répond au droit du citoyen à l'information. De son côté, Iheb Chewch, qui est aussi journaliste et producteur à la télévision, il analyse comment la production audiovisuelle à la télévision publique peut être au service du droit du citoyen à l'information avant de développer les critères des programmes de qualité. Et avant-dernière contribution proposée par Dr Amin Ben Mas'oud et Arwal Kouali à propos de la profession journalistique et l'importance du journalisme, de la profession journalistique pour satisfaire le droit du citoyen à l'information. Ensuite, nous avons 2 contributions, une contribution double par Femer Zourlemi et Dr Soumaya Barjab sur l'accès au réseau de télécommunications qui est un accès inégalitaire. La plupart des régions à l'intérieur de la Tunisie, à un moment ou à un autre, souffrent de déficits en matière d'accès, soit à l'Internet, soit au programme de radio et de télévision terrestre. Et il s'agit de remédier à cette inégalité, notamment en développant la radio numérique, c'est-à-dire la DAB, et l'Office national de télédiffusion, et on est encore à sa phase expérimentale. On n'a pas toujours la DAB sur nos radios, que ce soit à domicile ou dans les radios. La 12e contribution met en valeur le rôle du journalisme d'investigation à partir des expériences menées par les médias électroniques qui se spécialisent dans l'investigation, à l'instar de Nawet, Enkifada et El Khatib. Ensuite, nous avons une 13e contribution sur la redevabilité des médias, proposée par Yousser Belkhiria, qui est une doctorante en sciences de l'information et de la communication, et qui traite une question essentielle, à savoir que les médias sont redevables essentiellement à l'égard de leur public Et il faut développer les mécanismes de redevabilité des médias à l'égard du public, en développement, évidemment, l'autorégulation, le conseil de presse, médiateurs dans chaque média public ou privé. Et enfin, le livre est clôturé par une analyse statistique comparée présentée par Manu Bimarouki sur la profession de journaliste entre 2012 et 2022. Sur une décennie, on a une comparaison statistique de l'évolution de cette profession. Voilà.
Vous avez tout
résumé,
dit, là. Hein.
Voilà, résumé. Non, c'est juste
vous
pour
avez
résumer,
tout dit.
Résumer les axes de ce livre qui fait à peu près 263 pages. Et je vous laisse le soin de m'interpeller sur...
La question que je pose encore, ouais. Pourquoi notre télévision nationale qui a un nom, qui a une réputation, et le livre le montre même bien, qui est en train de revenir d'ailleurs, de gagner... Son auditoire existe toujours, les gens maintenant mettent en question un certain nombre d'expériences privées, parce que en fin de compte, il y a un cahier de charges qui est respecté, qui n'est pas respecté. Mais pour le problème des langues, la Tunisie n'a pas encore réglé le problème des langues. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quelle que soit la méthodologie, les techniques, les Japonais ont mené une enquête et ils ont dit que le matériel technique ne suffit pas, qu'il faut tout d'abord un état d'esprit. Il faut d'abord souffrir sur la différence, sur le monde. Dans quelle langue va-t-on dire la Tunisie? Va-t-on penser la Tunisie? Une seule langue suffit-elle?
Nous avons une tradition de multilinguisme depuis l'Antiquité. Hein. Donc là, je ne me risque pas, ce n'est pas ma zone de confort. Vous connaissez ces questions mieux que moi. Je ne peux que être d'accord avec vous qu'il ne faut pas monologuer entre nous dans la langue que nous considérons comme notre langue nationale, qui est la grande langue arabe. Nous avons toujours eu en Tunisie des journaux
en
français, en italien,
surtout, voilà.
Même quelques expériences anglophones.
Et RTCI le montre bien.
Nous avons heureusement encore une chaîne
internationale. Il y a encore RTCI, oui.
Mais effectivement, nous avons perdu pas mal de nos émissions de télévision qui étaient en français.
Vous êtes spécialiste. Ouais. L'Algérie, A1, A2, le Maroc, 2M. La Tunisie, T, seulement T. Ça veut dire qu'il y a quand même un manque.
C'est Habib.
C'est une occasion en or pour, nous sommes en 2005, pour dire que, avec Mhezaoui, que nos jeunes qui veulent investir en Tunisie, qui utilisent les langues du monde, qui sont au Canada, en Amérique, en France, en Europe, en Allemagne, ont besoin de, d'un écran. C'est pas d'un miroir. Ont besoin de mise en perspective.
Par rapport, c'est Habib, au nombre de chaînes que vous avez cité, en comparaison avec nos voisins d'Algérie, Maroc.
Et en Afrique,
Nous sommes le pays le plus pauvre en nombre de chaînes publiques de télévision. Pour les radios, on tient à la comparaison. Mais pour les chaînes publiques, nous avons uniquement deux chaînes publiques. Je ne citerai pas la chaîne éducative qui n'existe que sur le papier. Nous avons uniquement deux chaînes publiques par rapport à nos voisins, même par rapport à la Libye, qui ont plus d'une dizaine de chaînes publiques.
Voilà.
Et donc là, effectivement, nous avons un déficit à combler.
Par exemple, il y avait un projet pour la radio sportive, la radio culturelle, la radio éducative, la radio de la télévision, je veux dire. La radio, c'est l'absurde. La télévision sportive, culturelle, éducative et de proximité régionale. Comme par exemple l'expérience en France qui est citée par les intervenants. C'est intéressant à un certain moment même de consacrer une heure, mais entière ou deux heures aux régions. À l'esprit des régions, aux problèmes des régions, avec maintenant surtout cette volonté politique de valoriser le régional, le local, le régional, et de ne pas centraliser, de responsabiliser les acteurs régionaux et locaux.
C'est Habib, je suis tout à fait d'accord avec vous que effectivement on a de la marge en matière de développement de nos chaînes et surtout de nos programmes internationaux. Pour le moment, personne, je dis bien personne, et moi j'observe le paysage médiatique depuis une quarantaine d'années, personne n'a en charge la responsabilité du secteur de l'information. ni au gouvernement, ni au Parlement, ni où que ce soit. Nous n'avons plus pratiquement d'instances de régulation, nous n'avons évidemment pas de département ministériel, et du coup, les réformes indispensables pour développer le secteur de l'information, elles sont très urgentes, mais nous n'avons pas une interface au niveau de l'État pour prendre en charge ce qu'on a appelé à partir de 2011 la réforme du secteur de l'information et qui est restée dans les rapports de l'INRIC, de l'UNESCO et qui sont d'actualité encore.
Commençons par le commencement. Ces jeunes maintenant qui étudient et qui fréquentent les réseaux sociaux, il va falloir commencer par le commencement, comme pour l'environnement, pour l'information, le droit à l'information. Un enfant a besoin d'être informé, de comprendre comment on s'informe, comment on se forme, comment on évite telle image, tel message, comment on se construit à partir de cela. Et là, nous sommes en 2025. Oui. Ça va vite avec l'intelligence artificielle.
C'est le domaine de ce qu'on appelle l'éducation aux médias et à l'information et qu'il faut absolument développer dans les écoles, collèges et lycées. Ce que nous avons essayé de faire à partir de 2004 au niveau de l'IPSI, quand on a organisé le premier colloque international sur l'éducation aux médias, en partenariat bien sûr avec le ministère de l'éducation, avec l'UNICEF, et j'espère que cette éducation aux médias ne sera pas simplement un slogan que de temps en temps certains responsables répètent sans le mettre en œuvre effectivement.
Alors commençons par le commencement encore, former, s'informer, et bien sûr, formuler, reformuler, retenir, résister, décanter, stocker, transmettre. Voilà le paradigme. C'est pas facile.
Moi, je dirais d'abord que tout commence par l'information. C'est-à-dire qu'actuellement, nous n'avons pas l'excuse des supports, parce que les supports numériques sont pour la plupart du temps soit gratuits, soit accessibles à faible coût. La production de l'information, elle est aussi disponible, et notamment il faut insister sur le droit d'accès à l'information qui est garanti par la Constitution et qui est garanti aussi par une loi de mars 2016 qui a créé l'instance d'accès à l'information. Et une fois que nous avons accès à l'information, que ce soit sur des supports traditionnels ou digitaux, numériques, il faut, et c'est là où commence le travail de l'éducation, le travail des médias professionnels, traiter ces informations, parce que trop d'informations tuent l'information, et le principal avantage d'Internet, c'est la quantité d'informations, mais c'est aussi son principal danger. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à traiter cette information d'un point de vue national, d'un point de vue avec une perspective qui est la vôtre, qui est nationale ou régionale, vous ne pouvez rien faire avec ces informations. Donc le traitement de l'information, l'analyse de l'information, ça c'est le rôle des journalistes, des chroniqueurs, des chercheurs, des sociologues, etc.
Quelle est la qualité du journaliste professionnel ?
Le journaliste professionnel subit un paradoxe, il vit dans un paradoxe depuis le début, c'est-à-dire que c'est une profession qui est valorisée, parfois même idéalisée, mais dans la pratique, c'est une profession qui subit énormément de contraintes et qui ne travaille pas dans un environnement performant qui lui permet d'être performant. Et je pense que le droit tunisien a quand même fait des progrès en protégeant le journaliste, en lui donnant accès à l'information, en garantissant sa sécurité. Ça, c'est le décret loi 115. Mais cette avancée juridique n'a pas été accompagnée par une avancée, disons, au niveau social et au niveau financier. Du coup, les journalistes, qui sont d'ailleurs bien organisés au sein d'une d'un syndicat unique, contrairement à d'autres pays où il y a une dispersion. Là, nous avons en Tunisie le syndicat des journalistes. C'est une organisation professionnelle qui essaye de protéger, disons, le statut du journalisme, pas seulement le côté revendicatif, mais aussi la défense des libertés. Le journaliste ne peut pas travailler sans un minimum de liberté. Et voilà, donc nous avons consacré dans ce livre tout un chapitre sur la profession journalistique. Et moi, je peux parler longtemps sur cette question, parce que j'ai pas mal travaillé sur le statut du journaliste, même en comparaison avec d'autres pays, puisque j'ai une double formation de juriste et de sciences de l'information et de la communication. Et je peux vous dire que nous sommes, par rapport au statut du journaliste, d'un point de vue légal et juridique, nous sommes à jour. Nous avons une législation qui est satisfaisante. On peut toujours la développer, hein, surtout par rapport aux conventions collectives qui n'ont pas été toujours bien appliquées. Mais moi, je pense que le journaliste est l'acteur essentiel du système médiatique et il faut s'en occuper davantage.
Il y a un mot que nous allons ajouter, c'est confiance. La confiance. C'est-à-dire que pour la météo, par exemple, on regarde les réseaux sociaux.
La confiance du public.
Oui, parce que le citoyen est impliqué, là. Nous avons parlé de champ, maintenant.
Ouais.
C'est fini, le binaire. Non, c'est tout un flou. Il y a un trop-plein. Comment s'y retrouver?
Ouais.
C'est-à-dire que je ne sais pas s'il va pleuvoir ou non demain. Qui croire? Le paysan croit la télé nationale et la radio nationale. Et parfois, il y a des radios privées. C'est juste comme ça pour caricaturer, qui parfois se permettent de dire « Oh là là, attention demain !» Alors les gens du coup ne travaillent pas ou quoi? Entre-temps, ce sont des prévisions météorologiques. On m'a demandé de vous poser cette question. Ce matin, j'ai fréquenté des paysans comme ça, ils m'ont dit « Mais oui, qui croire alors ?»
D'abord, les paysans, n'ont pas... les paysans...
Ils suivent le progrès.
De nos ancêtres, ils étaient capables quand même de prédire
le temps,
l'évolution de la météo, parfois mieux que les météorologues. Sur cette question de la confiance du public par rapport aux médias, elle est très intéressante parce que aujourd'hui, nous avons des baromètres pour observer le degré de liberté de la presse. Mais c'est pas toujours très pertinent parce que les indicateurs ne sont pas toujours significatifs. On s'est basé notamment sur le nombre de journalistes tués ou arrêtés ou dans beaucoup de pays, il n'y a pas de liberté de la presse, notamment dans les pays du Golfe, sans qu'aucun journaliste ne soit tué ou arrêté. Mais il n'y a pas de liberté de la presse parce qu'il y a tellement d'autocensure que on n'en arrive pas généralement à ce genre de répression sanglante.
L'article de Abdelaziz Qassem publié dans l'IDR, par exemple, sur la honte. Il dit la honte, et c'est très fort, je l'ai lu moi hier.
Oui,
là c'est la Tunisie. La Tunisie qui accepte la différence et qui permet aux intellectuels d'écrire leur point de vue. Le dire c'est une chose, mais l'écrire et le publier, et bravo pour l'éditeur, parce que c'est ça aussi, ouais. Être de son temps, c'est avoir le courage. C'est osé.
Nous espérons.
C'est osé.
Ouais, ouais. Nous espérons que dans une réédition de cet ouvrage, nous aurons une contribution de Serge Abdelaziz Qassem que nous avons déjà sollicité il y a 2 ans et qui nous a éclairé sur le concept de liberté. Est-ce que nous avons en Tunisie depuis 2011 de la liberté? Et Serge Abdelaziz Qassem apporte un éclairage très original et très pertinent là-dessus. Je reviens en 2 mots sur la question des baromètres de mesure de la performance des médias. Il y a aujourd'hui un baromètre qui s'appelle le degré de confiance du public dans les médias. Nous avons même eu, j'ai pas les chiffres en mémoire, mais il y a eu une étude il y a 2 ou 3 ans sur le degré de confiance du public tunisien dans ses médias. Et effectivement, vous avez raison de le souligner, la confiance du public dans les médias doit être mesurée régulièrement.
Le jour viendra où on devrait prendre en compte un droit plus large que le droit de l'homme à l'information. Il s'agit du droit de l'homme à communiquer, et c'est l'angle sous lequel il faudra considérer le futur développement des communications si on veut vraiment le comprendre. Jean Darcy, qui est cité dans ce livre.
1969.
Que je déjà. Justement, quand j'ai vu la date, j'ai dit, mais quand même, là, ouais. voilà un penseur qui a vu. Et alors, le droit à l'information et le droit de l'information, ce n'est pas la même chose. Vous insistez sur cette différence.
Non, justement, je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Quand les rédacteurs du projet de constitution en 2014 étaient en travaux, l'une de mes collègues juristes m'a appelé pour me dire, voilà, nous avons un projet d'article qui est l'article 32, qui est intitulé « Le droit d'accès à l'information est garanti et le droit d'accès au réseau de communication est aussi garanti ». Je lui dis « Écoute, le droit d'accès à l'information est une composante d'un droit plus large qui est le droit à la communication et on peut mettre les deux, le droit à la communication et le droit d'accès à l'information. Ou le droit à l'information, c'est un peu la même chose, le droit à l'information, le droit d'accès à l'information et le droit d'accès au réseau de communication, etc. » Et j'ai su par la suite que personne ne savait exactement ce que signifie le droit à l'information. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons fait ce livre, pour essayer
de montrer cela,
d'expliciter un droit fondamental qui est inscrit également dans la Constitution de 2022, dans les mêmes termes. La Constitution de 2022 a conservé les deux articles relatifs à la liberté de la presse et au droit d'accès à au droit à l'information dans les mêmes termes que la Constitution de 2014, heureusement. Et à mon avis, c'est une avancée parce que dans la plupart des constitutions, même dans les pays démocratiques, ils n'ont pas inscrit ce droit dans leur constitution. Ils le pratiquent, mais ce n'est pas un droit constitutionnel.
Oui, ce que vous venez de dire là, si on pouvait le dire à la télévision nationale et en français. Parce que moi, quand je vois encore un joueur tunisien qui donne son point de vue en français après un match, c'est la deuxième génération en France. On ne va pas traduire, les gens comprennent. Et c'est encore une fois ce que vous dites là, la Tunisie qui est en train de se construire, de se former, parfois devrait répondre à certaines, on va dire, lectures. Il fut un temps où des journalistes étrangers qui viennent en Tunisie, là, qui va les encadrer? Qui va regarder ce qu'ils font? Il y a des témoins. Quand, au cours de la sommet de la francophonie, le film qui a été diffusé sur TV5 Monde, Charlotte, c'est l'image la plus violente de la Tunisie. On donne donc l'image qu'on souhaite donner, parce qu'ils ont leur ligne éditoriale. Si on avait la possibilité de répondre, on l'aurait fait.
Oui, là, vous soulignez la question de la gouvernance globale des médias,
ah oui,
la politique publique des médias.
Qui regarde quoi, qui juge, qui note.
Nous avons besoin d'une politique publique en matière d'information. Nous avons besoin d'une gouvernance, disons, révisée. Pas la gouvernance avec un ministère gendarme ou
une agence, avec à la limite une agence. Appelons-la autrement,
oui,
mais
tout
voilà.
À fait.
Une structure.
C'est ce que développe ce livre, que le secteur de l'information ne peut pas être continuellement laissé en dehors du champ d'intervention de l'État, parce qu'il s'agit d'un droit constitutionnel aujourd'hui, le droit à l'information, et que ce droit mérite d'avoir des lois d'application et des mécanismes par des structures, que ce soit pas forcément des structures ministérielles, mais on peut être inventif. On peut, effectivement...
Changer le nom, parce que la fameuse agence mauvaise réputation.
Moi, je dis souvent, parce que c'est une question récurrente dans nos débats, si vous m'opposez l'argument que rétablir un ministère de l'information veut dire rétablir la censure et donc c'est mauvais, je dis alors supprimons le ministère de la Culture, parce que si on va dire que le ministère de la Culture a pour fonction d'établir la censure sur la culture, en supprimant également le ministère de la Culture, on peut supprimer également le ministère des Affaires religieuses. Non, quand il s'agit d'une liberté publique, d'un droit fondamental, l'État a l'obligation de mettre en place, de créer des services publics, y compris ministériels, pour s'en occuper.
vous avez suivi cette émission qui rencontre d'un livre. Ce livre, moi je l'ai lu et j'ai beaucoup appris, parce qu'il y a surtout des pistes, il y a des chemins. Et la liberté est un droit fondamental, bien sûr, mais les médias ont besoin de médiateurs. Comment impliquer les jeunes? Comment les écouter? Comment prendre son temps? Comment éviter les pièges et les dérives? Nous remercions Abdelkrim Hezaoui, il dirige le Centre de développement des médias, il est professeur émérite, vous l'avez écouté, son intention, elle est fondamentale, elle est entière,